Donc, sans tarder, nous allons entrer dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la séance des questions et réponses. Avant cela, je demanderai à nos collègues caméramans de ne pas obstruer l'écran pour ceux qui nous suivent. Et donc, nous commençons par Goma aujourd'hui. Goma, vous avez deux questions, s'il vous plaît.
Il n'a pas bougé.
Goma. Goma, j'ai l'impression que nous avons des problèmes techniques avec Goma, donc nous restons ici à Kinshasa pour le moment. Donc nous prenons deux questions, une à gauche, une à droite. Passez le micro, s'il vous plaît. Donnez le micro ici à gauche.
Merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte Congo Opportunity Media. Je voulais poser ma question au porte-parole militaire Colonel Amouzou. Ça fait plus de 10 ans ou plus, chaque semaine, les opérations, dont les FRDC mènent des opérations en Ituri, soutenues par la MONUSCO, chaque mercredi. Et ma question est celle de savoir, ces opérations sont menées sans un timing où il y a toujours un timing, une durée, ou un délai, ou encore une période bien déterminée, mais qui n'arrive pas au succès. C'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un timing pour ces opérations? Je pose cette question au colonel Amouzou.
Oui, donc, mon colonel, je ne sais pas si vous avez entendu la question. Bon, apparemment, je pense que nous avons toujours ce problème technique avec Goma. Je vais tenter une réponse à votre préoccupation qui est relative au timing des opérations menées particulièrement en Ituri. Ben, laissez-moi d'abord vous dire que c'est pas simplement des opérations menées en Ituri, c'est une caractéristique de la planification des opérations. Toutes les opérations sont planifiées, sont menées dans un cadre qui est bien défini, parce que vous savez qu'une opération, au-delà des activités tactiques qui sont menées, il y a tout un soutien logistique qui permet de poursuivre ces opérations. Donc forcément, ces opérations sont limitées dans le temps. Mais vous savez, des opérations peuvent être menées de manière sporadique, mais elles sont reprises une, deux semaines plus tard, après avoir, bien sûr, observer les mouvements de l'adversaire, les mouvements de l'ennemi, si je peux le décrire ainsi. Et chaque fois que les regroupements sont observés et que on se rend compte que le taux d'attrition qui leur avait été imposé n'est pas si effectif que ça, ces opérations sont reprises. Oui, il faut se féliciter d'ailleurs qu'il y ait des opérations parce que, comme vous le savez, l'Ituri est une préoccupation majeure, surtout à cause des exactions menées par les FRPI dans cette région de la République démocratique du Congo. Je pense que le porte-parole militaire a été assez exhaustif là-dessus, en nous disant, en nous décrivant au fil des jours les différentes exactions menées par les membres du Front de résistance patriotique de l'Ituri, mais il a aussi dit que des actions musclées avaient été entreprises avec les FRDC pour contenir d'abord ces éléments du FRPI, mais ensuite les neutraliser de manière définitive. Donc, merci. Nous prenons une deuxième question ici sur la droite. Oui, passez le micro.
Oui, merci. Merci, Monsieur Félix. Ma question s'adresse, c'est Théodore Ngandou au compte de Télé 7. Ma question s'adresse à Madame la directrice du PNUD RDC. Vous venez de souligner que le PNUD existe dans notre pays depuis 40 ans et que il appuie le pays sous la voie d'un développement multidimensionnel. Alors, qu'est-ce qui fait que, après l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement, l'RDC n'a pas pu atteindre ses objectifs, alors que le PNUD était aux côtés des autorités gouvernementales pour les accompagner? Qu'est-ce qui a fait que ces objectifs n'ont pas été totalement atteints?
Oui, vous pouvez y aller, madame.
Merci beaucoup, Télé 7, d'avoir posé la question. Je pense que dans le cadre des objectifs pour le millénaire, c'est pas seulement une question du PNUD, c'est une question des Nations Unies et aussi du pays lui-même. C'est vrai que la RDC n'a pas atteint aucun des objectifs des OMD, mais il y a eu des progrès significatifs faits dans beaucoup des domaines, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de pauvreté. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder les tendances et l'évolution. Et comme je le disais tout à l'heure, sur l'indice du développement humain, la RDC a quand même fait un bond de 10 places à cause de cette évolution. Donc, c'est important, premièrement, de regarder l'évolution quand on parle des OMD. Et maintenant, le deuxième message, c'est dans les nouveaux objectifs de développement durable, de voir comment la RDC va continuer cette évolution dans le cadre de ses objectifs de développement. Merci.
Oui, merci. Nous tentons encore un contact avec Goma pour voir s'ils sont en ligne. Goma. Il semblerait, selon les techniciens, que Goma est déconnecté. Donc, nous restons donc ici à Kinshasa pour prendre deux autres questions. Oui, passez le micro là-bas.
Merci, Saint-Froyant Katumba, l'explorateur. J'ai une préoccupation à l'intention de M. Diorté Félix Basse. La voie du dialogue inclusif vient d'être balisée par le secrétaire général Ban Ki-moon des Nations Unies. Le nœud d'un grand défi reste celui du médiateur international. Quel est votre point de vue? Je vous remercie.
Merci pour cette question qui, comme vous le savez, agite non seulement la classe politique, mais aussi agite tous les citoyens congolais, mais aussi les partenaires de la République démocratique du Congo, relative à ce dialogue inclusif, comme vous semblez le dire, mais je tiens à corriger que ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui a indiqué la voie d'un dialogue inclusif. Ce dialogue a d'abord été convoqué par son Excellence Monsieur le Président de la République, mais le secrétaire général des Nations Unies, lors de sa visite en République démocratique du Congo, a encore réaffirmé avec force la nécessité d'un dialogue inclusif qui respecte la constitution du pays et qui soit accepté par tous les Congolais. Donc je pense qu'il n'a fait que réaffirmer avec force cette initiative du dialogue, parce que comme il l'a dit lui-même, le dialogue est une voie incontournable. Ou on dialogue en amont pour régler les problèmes, ou forcément en aval aussi le dialogue est là. Rappelez-vous que nous avons eu des dialogues différents pour enregistrer tous les progrès démocratiques qui ont été réalisés depuis Sun City. Donc par rapport maintenant à la médiation de l'Union africaine, je tiens d'abord à rappeler que c'est sur la requête du gouvernement congolais que l'Union africaine a été saisie, tout autant que les Nations Unies, et en son temps, Monsieur le Secrétaire Général avait dépêché à Kinshasa son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Monsieur Saïd Djinid, qui est venu faire un travail exploratoire en contactant toutes les parties, et ensuite l'Union africaine a nommé un médiateur. Alors, donc la question du médiateur, je pense, ne se pose pas, parce que si on considère que le principe de subsidiarité est respecté dans ce cadre-là, vous conviendrez avec moi qu'il est préférable que les problèmes du continent africain soient réglés d'abord par les structures africaines avant qu'on ne puisse les référer aux Nations Unies. Évidemment, l'Union africaine a aussi tous ses mécanismes en place. Mais ce qu'il faudra considérer, c'est que les Nations Unies, et comme l'a rappelé Monsieur le Secrétaire Général, sont disposées par la MONUSCO interposée à appuyer toutes les activités que Monsieur Edem Kodjo, qui a été nommé facilitateur, nous sommes prêts à appuyer tous les efforts de Monsieur Edem Kodjo pour arriver à apporter notre contribution au processus électoral, ou en tout cas au dialogue qui devra précéder, si vous voulez, tout le processus électoral. Donc je pense que nous sommes en conformité avec non seulement nos règles et principes, mais nous sommes aussi dans la même dynamique que l'Union africaine, c'est-à-dire la recherche d'un processus, de solution à un processus électoral libre, transparent et crédible. Merci. Donc nous prenons une deuxième question ici à droite. Oui, passez le micro là.
Merci, c'est M. Alain Waikani pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Moi, je m'intéresse aux humanitaires. Je veux savoir si vous avez parlé d'un certain nombre, je ne sais pas, autant des provinces attaquées par à l'inondation. Je voudrais avoir une idée sur les, si vous avez déjà un nombre bien déterminé de victimes, si les victimes ont été identifiées, leurs besoins, ça se chiffre à combien et qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce que vous voulez faire dans les jours à venir. Et si Kinshasa aussi est concerné par ce que vous venez de donner comme statistique, parce qu'on sait que Kinshasa aussi était parmi les provinces frappées par l'inondation. Merci.
Merci. Il y a un travail de collecte de données qui se poursuit. Au point où on en est, Florence tout à l'heure vous a donné des chiffres. Nous avons plus de 550 000 personnes qui sont affectées dans 11 provinces. Et la province la plus affectée, c'est le Tchopo, où on dénombre près de 400 000 personnes affectées. Les autres sont le Haut-Ouélé, la Mongala, pour ne pas oublier certaines provinces, j'ai toutes les données devant moi, le Haut-Lomami, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Congo central, notamment Inkissi, Boma et Bandangungu qui sont affectés. La Mongala, c'est Bumba qui est affectée. Voilà donc pour les statistiques. Alors, pour ce qui est en train d'être fait, le gouvernement, les autorités, avec l'appui des humanitaires, comme l'a dit Florence, apportent déjà un certain nombre de réponses. Ces réponses s'articulent en deux temps. Il y a d'abord une urgence pour sauver les vies, notamment en termes de sécurité alimentaire ou hygiène assainissement pour éviter qu'il y ait des épidémies qui éclatent, notamment le choléra qu'on craint fort. Et en termes de santé, nutrition, etc., dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a une réponse qui doit être apportée en termes de réhabilitation des infrastructures, parce que, comme on vous l'a dit, il y a des écoles qui ont été touchées, certaines endommagées, certaines d'autres complètement détruites. Il y a des routes aussi qui ont subi le contre-coup des intempéries qu'on connaît depuis pratiquement 5 mois. Il y a une mobilisation sur les terrains pour répondre à tout ça, mais le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'argent. On est aussi en train de frapper à toutes les portes pour réunir les fonds nécessaires pour apporter des réponses à toutes ces situations.
Merci Sylvestre. Nous allons encore une fois tenter de rejoindre Goma. Goma, vous m'entendez? Goma, vous m'entendez? Je vois des mains qui se lèvent à Goma, mais apparemment la connexion...
Oui, vous... merci. C'est Norbert Moukila pour le compte du journal Emergence. Je pose ma question à Sylvestre Moudingaï. Lors de la présentation du plan d'action humanitaire 2013 ici à Goma, Ocha a révélé à la presse qu'il y aurait plus de 15% des besoins humanitaires qui se sont plutôt augmentés cette année ici en province du Nord Kivu. Mais malheureusement, nous constatons que Ocha ferme certains de ses sous-bureaux dans la province. Ma question, je voudrais savoir pourquoi Ocha ferme ce bureau. Là, j'ai fait justement, je donne l'exemple du sous-bureau de Alicale, qu'ils ont fermé. Je pose cette question pour savoir, est-ce un problème financier ou c'est la sécurité qui s'est rétablie à Alicale pour fermer ce bureau et...
Oui, merci, nous avons compris votre question. Oui, Sylvestre, allez-y.
Il y a un peu de tout ça, mais il faut savoir que Ocha, en termes de besoins opérationnels, hein, s'assure d'être là où il y a les grosses priorités. Et quand bien même il arrive qu'on déplace un bureau d'un endroit à un autre ou qu'on ferme un bureau, on s'assure toujours qu'il reste un point focal pour la coordination de l'action humanitaire. OCHA n'est pas, n'a pas de bureau partout, mais partout on a de relais humanitaires, de points focaux humanitaires qui s'assurent que l'action humanitaire dans ces lieux-là continue dans des conditions plus ou moins normales. Le manque de présence de OCHA à Walikale ne veut pas dire que OCHA n'est plus intéressé par ce qui se passe à Walikale, mais il y a d'autres mécanismes qui prend quand même en relais, l'action humanitaire dans ce coin-là.
Oui, merci. Nous restons à Goma pour prendre encore deux questions.
Une dame, il y a la femme, au fond là-bas. Allez, s'il vous plaît. Sème. Alors, mon nom c'est Frédéric Ferroussi, journaliste de Sokinchi. Ma question, je l'adresse, c'est à la responsable de l'équipe des CNRDC. Vous dites que vous soutenez les efforts de renforcement de démocratie CNRDC. Est-ce que vos efforts ont porté des fruits ou que la situation reste préoccupante en termes de démocratie de la CNRDC?
Merci beaucoup pour la question. Juste comme le son n'était pas bon, je veux juste bien confirmer que la question c'était quels sont les fruits des efforts en termes de démocratie ici en RDC. Donc monsieur, merci beaucoup. Je pense que dans la présentation que j'ai faite, j'ai parlé de certaines réalisations, notamment le forum national sur la décentralisation, l'appui aux élections de 2006 et de 2011, le programme de gouvernance, et là j'ai donné des exemples concrets en termes du temps moyen de passage des lois, de la couverture des magistrats. Donc, encore une fois, monsieur, je reviens au message que j'avais sur les OMD, c'est une évolution. Et il y a quand même eu une évolution dans le cadre de ce pays, et il faut le noter, il faut le souligner. Mais il y a encore des efforts à faire, et c'est là, justement, dans le cadre des objectifs de développement durable et de l'agenda du développement, qu'on va continuer à soutenir les efforts en termes de gouvernance, en termes de démocratie, en termes de consolidation de la paix. Mais oui, effectivement, il y a eu des résultats. Maintenant, il faut bâtir dessus et il faut continuer. Merci.
Merci. Une troisième question à Goma.
Je m'appelle Cosmo Simungazi, journaliste scientifique. Ma question s'adresse au colonel Amzou. Selon les ondes de la radio Okapi, Goma, les policiers ont fui d'insécurité dans 4 territoires de Massissi. La MONUSCO, qu'est-ce qu'elle fait pour prévenir les dangers dans ces localités-là de Massissi?
Merci beaucoup pour la question. Et vous parlez de l'absence ou de la fuite de la PNC. Oui, je vous disais tantôt que la sécurisation revient aux forces de l'ordre et aux FARDC de la République démocratique du Congo, et la MONUSCO n'est là que pour les appuyer. L'information que vous venez de donner, moi, je ne suis pas au courant de ça. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas.
Oui, merci.
Je ne suis pas au courant de ça. Et je ne pense pas que les policiers furent quand même, ils ont signé un engagement. Ils ont signé un engagement pour ça. Je ne pense pas qu'il y ait eu ce truc.
Un peu de silence, s'il vous plaît. Il faut qu'on maintienne l'ordre si on veut discuter de manière objective et positive. Donc, merci. Retour ici à Kinshasa pour prendre encore deux questions. Une à gauche. Donnez le micro. Bon, alors, donnez alors le micro plus proche, parce que apparemment il y a qu'un seul micro qui circule et c'est pas normal. Oui, prenez le micro, s'il vous plaît.
Merci, c'est Charles Kitingani pour les comptes du journal Gouvernance Plus, magazine du Congo Central. Ah, mais c'est Prosper, nous parlons du dialogue en RDC, et la MONUSCO maîtrise bien les problèmes et les contours de tous ces problèmes. Nous voulons les dialogues. Vous insistez sur les dialogues, vous soutenez les dialogues, en même temps vous soutenez les respects de la Constitution, les respects du délai constitutionnel par rapport à l'élection présidentielle qui agite tout le monde. N'est-ce pas que vous semblez vouloir quelque chose de son contraire au moment où, si nous allons au dialogue aujourd'hui, il faut croire que ce dialogue doit nous amener à un glissement. Pensez-vous que soutenir les dialogues vous épargne l'élection qui doit se tenir dans les délais constitutionnels, c'est ma question. Et à madame...
Une question, s'il vous plaît. Donnez la chance aux autres, s'il vous plaît. Je vais tenter une réponse. D'abord, je voudrais préciser que la Constitution de la République démocratique du Congo n'a pas été votée par les Nations Unies. Ce sont les Congolais qui se sont offerts cette constitution, et vous savez que, puisque c'est la loi fondamentale, il est normal que la loi fondamentale soit respectée. Donc il n'y a pas de contradiction dans tout ça. Ce que les Nations Unies disent, ça veut dire d'abord nous réaffirmons notre disponibilité à être à côté des autorités congolaises et de les accompagner, tout comme la communauté internationale l'a clairement défini en y rajoutant certaines conditions qui devraient normalement revenir ou en tout cas être de la responsabilité des autorités congolaises, notamment la révision du fichier électoral, etc. Il est évident que la Constitution doit être respectée. Maintenant, appeler à un dialogue pour relever ou en tout cas discuter des questions essentielles est une procédure qui, je pense, est logique. Mais tout ce que nous avons dit, nous avons dit et réitéré à plusieurs reprises que dans ces discussions qui vont probablement être initiées, il faut que les intérêts du peuple congolais soient respectés. Le peuple congolais a besoin de paix, a besoin de sécurité, et nous nous activons tous les jours pour que les conditions nécessaires à leur sécurité soient établies ou en tout cas mises en œuvre pour que nous puissions nous diriger vers des élections libres, transparentes et crédibles. Maintenant, le dialogue est une histoire congolaise. Je pense que ceci n'est pas de la responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies encouragent les Congolais à se mettre ensemble autour d'une table et à discuter des questions fondamentales, les questions essentielles qui les concernent à première vue. Voilà la position des Nations Unies. Et tout le monde est prêt à accompagner. Mais faudra-t-il encore que les Congolais s'accordent un temps de discussion, que les Congolais décident de ce qu'ils veulent faire. Si maintenant vous avez parlé de glissement, c'est un terme que vous avez peut-être, que vous pouvez définir. Moi, je ne sais pas c'est quoi le glissement. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que aujourd'hui, il y a des principes qui sont là. Ces principes doivent être respectés, mais si, de manière globale, les Congolais s'accordent sur l'essentiel et disent, au lieu que ce soit le mois de novembre, que ce soit le mois de janvier, ça c'est une histoire congolaise. Il faudra aussi que chacun prenne ses responsabilités et les porte jusqu'au bout. Oui, une deuxième question.
Oui, donnez. Merci, moi c'est Flavien Msens pour la Compte des Planètes. Madame la directrice de PNUD, je reviens sur vous, le mandat de PNUD, vous avez appuyé la justice congolaise, aussi les magistrats, restaurer l'autorité de l'État. Il y avait une opération que vous avez bel et bien lancée en République démocratique du Congo, de réhabiliter tous les centres pénitentiaires en République démocratique du Congo. Mais il se fait que cette opération est bloquée, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque cette opération.
Merci beaucoup, monsieur, pour la question. Donc, on continue à soutenir quelques centres en termes de Voilà, merci beaucoup. Mais pour faire plus, monsieur, c'est une question de moyens et de soutien. Donc c'est aussi l'opportunité de faire un appel. Mon collègue a mentionné l'appel à sécurité. Moi, je mentionnais aussi le développement qui a besoin de soutien dans ce pays. Merci.
Oui, merci. Donc, je vais peut-être rendre l'antenne dans quelques minutes à Radio Okapi, mais nous allons poursuivre ces échanges. Encore de 10 minutes, je prends pour prétexte la présence de Madame Priya à nos côtés. Donc, nous partons à Goma pour prendre deux autres questions. Goma.
Radio Tania,
c'est ça. Aïna.
Aïna.
Bon, moi, j'ai l'ami de la radio Taïna Goma.
C'est Michel. Vous avez dit c'est ouvert.
Oui, non, moi, c'est l'ami de la radio Taïna Goma. Ma question est
adressée.
Oui, allez-y, Goma.
Oui, c'est Jérémy de la radio Taïna Goma. Ma question est adressée à Abbas. Qu'est-ce que la population des Béni peut retenir de la MONUSCO pendant tout ce temps que votre présence est manifestée en Béni, alors que les populations continuent à être massacrées?
Voulez-vous répéter la première partie? Excusez-moi. Voulez-vous répéter la première partie de votre question? Qu'est-ce que la population de Béni
peut retenir de votre présence dans la comté?
Oui, merci. Évidemment, je n'ai pas la prétention de répondre à la place des populations. Je pense que vous pouvez vous rendre à Béni et poser la question directement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la force de la MONUSCO, en étroite collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo, mène des activités tous les jours afin de restaurer l'autorité de l'État et de protéger les populations au mieux. Évidemment, comme je l'ai dit, beaucoup d'activités, beaucoup d'actions ont été menées contre l'ADF. Je dirais tout simplement que les populations de Béni peuvent retenir que, premièrement, nous sommes en train de travailler avec nos frères congolais sur le terrain pour améliorer la situation. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est que nous apportons tout notre soutien, que ce soit tactique, logistique, en termes de soutien aux renseignements, mais aussi en termes d'évacuation médicale aux besoins, aux troupes congolaises qui sont sur le terrain et qui font du bon travail. J'ai rappelé, et j'aime bien rappeler, que les efforts qui ont déjà été consentis par les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'ADF, qui constitue pour nous un objectif prioritaire, sont quand même très louables, parce que je l'ai dit, l'ADF a subi un taux d'attrition très élevé suite aux différentes opérations menées de manière offensive par les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la MONUSCO. Donc beaucoup de bastions qui étaient jadis contrôlés, tenus par ces rebelles ougandais dans la province du Nord Kivu, le Grand Nord, en d'autres termes vers les montagnes du Rwenzori, etc. Ces efforts ont payé, mais certes, les braves Congolais, soldats congolais aussi, y ont laissé leur vie, mais pour réduire les activités négatives menées par ce groupe armé. Donc les populations civiles de Béni continuent à nous faire confiance et nous leur demandons de continuer à nous soutenir, parce que sans l'appui de ces populations aussi, le travail ne peut pas être fait de manière complète ou remarquable. Dans toute opération, on a besoin des populations, on a besoin de leur soutien, on a besoin de leur accompagnement pour que nos efforts soient couronnés de succès. C'est ce que je peux vous dire concernant les populations de Béni. Donc nous restons toujours à Goma pour prendre une deuxième question, s'il vous plaît.
Merci pour la question, M. Mireille Mansila de la MTNC. Ma question s'adresse à Mme Florence Marchal. Pourquoi cette vaccination contre la méningite? Est-ce qu'il y a ou y aura l'épidémie de cette maladie en République démocratique du Congo?
Oui, Florence.
J'ai Sylvestre du Bureau des Affaires Humanitaires à mes côtés et on vous promet tous les deux de nous rapprocher de nos collègues de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour pouvoir vous donner une réponse documentée.
Merci. Retour tout de suite ici à Kinshasa. Nous prenons deux autres questions. Donnez le micro à gauche à RFI.
Bonjour, Sonia Rollet de RFI. Il y a eu des villages brûlés dans le territoire de Massissi, à Chonga et dans les localités voisines. Il y a eu une mission d'enquête des Nations Unies et des forces de sécurité congolaises le week-end dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a déjà des résultats par rapport à cette enquête?
Vous parlez de Chonga spécifiquement ou vous parlez de Nyanzale et
non,
de Chonga?
Non, ouais, Chonga. Oui,
effectivement, vous savez, nous avons été informés des incidents qui se sont passés à Chonga. Et effectivement, la force de la MONUSCO et les FRDC d'abord et la PNC se sont déployés pour mettre de l'ordre un peu face à cette situation qui, comme vous le savez, a provoqué des incidents entre des gens qui occupaient des terres. Vous savez, le problème foncier est toujours récurrent aussi en RDC. Donc des gens qui s'étaient installés sur des terres et quelqu'un s'est présenté pour réclamer, si vous voulez, ces terres-là. Donc des échauffourées sont suivies. Mais aujourd'hui, une mission d'enquête est sur le terrain pour déterminer avec précision les responsabilités, mais aussi les circonstances dans lesquelles toute cette violence a été perpétrée. Et nous n'avons pas encore les conclusions de ces enquêtes, mais nous les mettrons à votre disposition très bientôt. Mais c'est une situation que nous suivons de manière très particulière, parce que vous savez très bien que depuis un certain temps, nous avons vu une éruption de conflits liés au foncier ou de conflits interethniques entre différentes communautés dans la province du Nord Kivu particulièrement. Mais nous suivons cette affaire et une fois que nous aurons les conclusions de cette enquête qui sont menées d'ailleurs en collaboration avec nos partenaires congolais, eh bien nous les mettrons à votre disposition. Donc nous prenons donc une deuxième question. La vie avant de repartir à Goma.
Guy Oloume, RTNC2 Développement. Madame Kajraj, quel budget le PNUD dispose-t-il chaque année pour la RDC et quels éléments entrent en jeu pour définir les priorités des plans d'aide?
Merci pour la question. Notre budget annuel, grosso modo, c'est à peu près 100 millions de dollars. Et en termes des priorités, nous sommes alignés sur les priorités du pays. Donc, le cadre stratégique de réduction de la pauvreté, le budget du gouvernement. Donc, on est guidé par les priorités du pays. Nous-mêmes, notre stratégie de pays est faite en concertation avec le gouvernement. Merci.
Merci. Donc, nous allons à Goma pour prendre une question à Goma avant de revenir à Kinshasa. Goma, vous avez le micro.
Oui, merci beaucoup, c'est innovateur Evi, pour le compte de Evi. Je viens fraîchement de Nyanzale. Ma question s'adresse à Félix Passe. Souvent, on nous dit que vous n'êtes pas capable à mettre chaque famille avec un contingent. Ce qui s'est passé à Nyanzale, vraiment, c'est atroce. Est-ce que les patrouilles que vous faites, c'est seulement à Goma dans les grandes artères, ou bien vous abandonnez même les recoins de ce pays pour aller faire des patrouilles et protéger les civils? Merci beaucoup.
Merci. Je vois que votre question est à la limite tendancieuse, mais je vais essayer d'y répondre. Premièrement, oui, c'est vrai que la MONUSCO a dit, a affirmé et répète qu'elle est incapable de mettre un casque bleu derrière chaque citoyen congolais. Nous avons des effectifs que vous connaissez, qui tournent autour de 19 000. Nous sommes là pour appuyer les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo de manière beaucoup plus globale, les forces de défense et de sécurité congolaises. N'intervertissons pas les rôles. Ça, c'est la première précision. La deuxième chose, c'est que si vous parlez de notre présence rien que dans les zones urbaines, je pense que ce serait nous faire un mauvais procès. Vous savez mieux que moi que la force de la MONUSCO est déployée dans la province du Sud Kivu, dans la province du Nord Kivu, un peu partout. Nous avons à peu près 19 000 hommes. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont au-delà de 100 000 hommes, 130 000 hommes, je pourrais dire. C'est la complémentarité de nos efforts qui nous permet jusqu'à présent de parer au plus pressé, de protéger les populations civiles. Nous ne faisons pas notre travail qu'à Goma, vous le savez. Je pense que vous faites un peu d'ironie là-dessus, mais la vérité est que nous faisons du mieux que nous pouvons, avec détermination, avec engagement, en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pour apporter un peu de réconfort aux populations locales qui en ont besoin. Parce que vous savez, les exactions qui sont commises ne sont pas commises par la force de la MONUSCO, ce sont des exactions qui sont commises par des groupes armés, et nous avons la mission de neutraliser ces groupes armés. Encore une fois, je remercie les autorités congolaises à cette occasion, et je réaffirme toute la satisfaction de la MONUSCO particulièrement pour cette reprise de la coopération militaire qui nous permettra, en mettant nos efforts en commun, d'enregistrer des progrès dans le cadre de la protection des populations civiles. Donc voilà, c'est sur cette note d'espoir que je mets un terme à cette conférence de presse. Merci d'avoir été nombreux à être parmi nous et à mercredi prochain.